Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le sommet Change Now s'est tenu la semaine dernière à Paris, un rendez-vous pour la planète pour sélectionner 1000 solutions à impact et faciliter leur financement, notamment par des investisseurs sensibles à la dimension RSE de l'événement. Cette année, l'eau et l'océan étaient notamment à l'honneur, une ressource en apparence illimitée, mais que l'on ferait bien aussi d'économiser. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver dès 17h sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Retour en différé au sommet Change Now. Le groupe Les Échos Le Parisien est partenaire de cet événement consacré aux solutions pour la planète. Vous l'avez compris, c'est une émission un peu particulière, enregistrée sur le salon avec aux manettes Willy Gann. Aujourd'hui, je reçois trois invités dans la story, trois invités pour présenter leurs solutions à impact pour l'environnement. Ils m'ont rejoint dans la bulle podcast installée au cœur du salon. Bonjour Thibault Lamarque.
Bonjour.
Fondateur de Castalie, spécialiste des fontaines à eau, une solution pour se passer des bouteilles plastiques. Et bonjour Malek Semar.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'une ONG dont le nom est en soi un programme, ou plutôt un rappel, No Water, No Us. Sans eau, nous ne serions pas là.
Le but est de sensibiliser et d'agir pour l'eau. On part du principe qu'en agissant, on peut sauver quelques personnes, quelques milliers, dizaines de milliers, peut-être même quelques centaines de milliers, mais qu'en sensibilisant, on peut toucher des milliards. Et que si plusieurs personnes se mettent à agir, bah finalement, on va un petit peu plus vite. Donc on s'appuie beaucoup sur l'art et le sport pour sensibiliser à l'eau.
Comment est-ce qu'on s'appuie sur l'art et le sport pour sensibiliser à l'eau ?
De manière concrète, sur la partie culturelle, nous avons écrit un spectacle qui s'appelle Lomé. On a eu le label Saison Africa 2020, donc il a été joué. On a dessiné en fait un œuf sur la carte de l'Afrique, 9 limites planétaires. Hein. C'est une rivière virtuelle qui traverse 9 pays. Et dans chaque pays, on va parler d'une thématique liée à l'eau, entre l'eau et les activités humaines, puisque finalement, la source de la pollution, c'est l'homme. En Égypte, on va parler de l'eau comme source de conflit. Il suffit de voir l'actualité. En Nigeria, le lien entre l'eau et la démographie, parce que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. En RDC, de l'eau comme source de mort. Il faut savoir que la RDC, avant l'Amazonie, c'est la première tourbière au monde, après l'océan. Et 50% des réserves en eau en Afrique sont en RDC. Donc les gens meurent, non pas par manque d'accès à l'eau, mais plutôt par trop d'eau, entre les éboulements, les tempêtes, etc. Donc le spectacle est vraiment le premier vecteur pour fédérer autour de l'eau. D'un point de vue sportif, on mène des actions. Alors, l'ONG et la start-up d'ailleurs, dans l'ONG, Blaise Matuidi et Johan Benalouan sont cofondateurs avec moi de l'ONG. Ils sont aussi investisseurs tous les deux à titre personnel dans la start-up, investisseurs actifs. Et donc, d'un point de vue sportif, on mène des actions, un petit peu comme le spectacle. Pour en citer une, 4 jeunes étudiants, après leur diplôme, sont partis faire le tour du monde à vélo. Partis d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, ils ont rallié Paris en vélo. 17 mois, 20 pays traversés, une cinquantaine de conférences dans les écoles, des installations humanitaires, Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Inde, etc. Donc l'idée, c'est toujours le même, un exploit sportif, des conférences pour sensibiliser et des actions sur le terrain pour vraiment permettre l'accès à l'eau aux gens.
L'ONG No Water, No Us, mais à côté, vous êtes aussi un serial entrepreneur, vous êtes cofondateur de la société France Industrie Assainissement. L'eau occupe une place importante dans votre vie. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours, que vous soyez aussi préoccupé par l'eau ?
Si je devais romancer, parce qu'aujourd'hui tout le monde romance en fait son histoire, je dirais, alors je suis né dans un village en Kabylie sans zone électricité. Je découvre le robinet physiquement en arrivant à Paris à l'âge de 8 ans et demi. Après, pour être totalement transparent, je ne pense pas que ce soit ça qui m'a amené à l'eau, ou peut-être de manière involontaire. Donc, pour romancer, c'est joli à raconter. Et puis moi, je garde que des bons souvenirs, en fait. Parce que le fait d'aller chercher l'eau, de partir 40 minutes à pied et de passer du temps là-bas et de revenir 40 minutes à pied, c'est des excellents souvenirs. Pas de parents, personne pour nous surveiller. Enfin, pour nous, c'était une fête, en fait, d'aller chercher l'eau. Donc, c'est un peu bizarre de se dire qu'aujourd'hui, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Alors déjà, personne ne meurt parce qu'il n'a pas d'eau à boire. Les gens meurent parce qu'ils consomment de l'eau insalubre. Ensuite, alors, moi, je suis ingénieur télécom. J'ai monté un opérateur télécom. Et en fait, l'école de la vie, pendant 6 ans, j'ai eu des soucis compliqués. Donc, vous rentrez chez vous, vous éteignez la lumière, et puis vous attendez 6 ans, et puis vous ressortez après. Et ça m'a amené à arrêter tout ce que je faisais pour dire, faut faire quelque chose de plus impactant. Et puis, ça a été une rencontre, en fait, avec Jacques Momeux, qui est devenu mon associé dans la boîte FIA. Et là, plongé dans l'eau, et puis j'ai le sentiment que quand c'est viscéral et quand on se passionne pour quelque chose, on comprend 10 fois plus vite les choses. J'ai pas d'explication rationnelle là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai aussi une casquette de conférencier international. Délégation France G20, Nations Unies, un peu partout en Afrique. Enfin, voilà.
Il y a une troisième invitée dans cet épisode de La Story, c'est Sabine Stuyver, elle est cofondatrice d'Hydraloop. C'est une entreprise néerlandaise qui a conçu une solution pour réutiliser l'eau potable de la maison et réduire ainsi la consommation. Je l'ai rencontrée en amont de cet enregistrement et je lui ai demandé d'abord ce qui l'avait sensibilisée à la question de l'eau.
Alors, je suis plus dans l'eau que hors de l'eau depuis que je suis enfant. Je suis poisson par signe astrologique et j'adore naviguer dans mon bateau à voile. L'eau a donc toujours joué un rôle dans ma vie, mais je pense que ce qui était important, c'est que lorsque j'ai vendu mon entreprise et pris le temps de réfléchir, j'ai réalisé que nous gaspillons tellement de l'eau et je me suis demandé comment il est possible qu'au XXIe siècle, nous continuions à tirer la chasse d'eau pour les toilettes, à arroser nos jardins et à laver nos vêtements avec l'eau pure, que dans de nombreux endroits, on peut même boire. Et que nous avons 2 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à l'eau à ce moment, et que d'ici 2050, nous aurons 2 milliards de personnes de plus sur la planète. Et notre monde manque déjà d'eau en ce moment, alors nous devons changer la manière dont nous utilisons l'eau. Et parce que personne ne fait rien, mon mari et moi avons ressenti la responsabilité de créer des solutions nous-mêmes.
Et vous êtes sorti de la retraite pour ça, hein, puisque vous aviez cessé de travailler.
Oui, c'était un taux retraite.
Sabine, l'eau est très présente sur la planète, l'océan couvre une grande partie de la surface de la Terre, mais en fait, l'eau potable, c'est une ressource rare finalement?
Oui, l'eau propre est très rare. Quand vous regardez notre planète depuis l'espace, vous voyez cette belle boule bleue, mais la grande majorité de l'eau à la surface de la Terre, plus de 96% est l'eau salée dans les océans et est une eau que nous ne pouvons pas utiliser. Donc, les ressources en eau douce, telles que l'eau tombant du ciel et se déplaçant dans les cours d'eau, les rivières, les lacs et nappes phréatiques, fournissent aux gens l'eau dont ils ont besoin chaque jour pour vivre. Et cette eau que nous pouvons tous utiliser, la flore, la faune et les gens, représente moins de 1% de toute l'eau sur Terre. Donc, en réalité, ce n'est pas beaucoup d'eau.
Et retour sur le plateau avec vous, Thibaut. Vous avez fondé en 2011 Castali, une fontaine à eau filtrée pour les restaurants, les entreprises, en référence à la fontaine de Castali qui jaillissait au pied du mont Parnasse. On s'y purifiait avant de consulter l'oracle de Delphes. Et les prévisions de l'oracle ne sont pas bonnes pour l'eau potable. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir?
Alors, c'est pas tellement pour l'eau potable, c'est surtout pour la bouteille en plastique. Donc moi, ce qui m'a vraiment animé, après quelques années chez Veolia Environnement, qui est le plus gros producteur d'eau potable du monde, j'ai décidé de proposer une alternative sérieuse et durable à l'eau en bouteille. Je dis souvent que j'ai pas inventé la fontaine, il y en avait partout des fontaines à eau, mais elles étaient toutes chinoises, petites, en plastique, à côté des toilettes. Et c'est ça que je suis venu réinventer avec Castali. Donc Castali, qu'est-ce que c'est ? C'est des fontaines fabriquées en France, parfois en Europe, mais en tout cas des fontaines qui sont fabriquées localement, de grande qualité et qui permettent de microfiltrer l'eau du robinet, de lui retirer les éventuels polluants, de la rafraîchir et de la servir plate ou pétillante dans des jolies bouteilles en verre, avec un impact qui est 90% inférieur à celui d'une bouteille en plastique. Donc on a vraiment réinventé l'usage de l'eau, réinventé la fontaine, et on est finalement la première marque d'eau hybride entre la bouteille et la fontaine.
C'est-à-dire ce qu'on consomme aujourd'hui dans des restaurants, même avec des bulles, c'est de l'eau du robinet.
C'était de l'eau du robinet qui a été microfiltré et rafraîchi, à la fois purifié mais aussi bonifié avec, on va dire, la bouteille. La bouteille, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les minéraliers. Si vous prenez les bouteilles de Danone et Nestlé, c'est quelque chose de très travaillé. Et aujourd'hui, on est arrivé avec des contenants, des bouteilles qui sont aussi belles que, même parfois plus belles que celles de nos confrères. Et c'est ça qui permet de valoriser le produit.
Qu'est-ce qui intéresse les entreprises, les restaurants aussi avec votre solution ?
Ben, c'est un engagement contre le plastique, contre le carbone. Je pense que là, il n'y a plus à dire que la bouteille en plastique, c'est quelque chose de mauvais pour la planète, que c'est très peu recyclé. À Paris, dans les grandes villes, on parle de 10% de recyclage sur les petits formats de bouteilles. Donc, moi, je voulais une alternative qui soit premium. Je voulais pas que l'expérience de l'eau change. Je voulais qu'on la réinvente et qu'on vienne remplacer, justement, ces milliards de bouteilles en plastique. On parle de 16 milliards de bouteilles à usage unique en France.
Il y a quand même des inquiétudes, hein, même en Europe, sur la qualité de l'eau du robinet. Hein, fréquemment, la question de la pollution, notamment en Bretagne, avec des pesticides ou des nitrates, ça pousse les gens quand même, peut-être, à préférer l'eau en bouteille.
Bah alors, je sais pas si vous avez suivi le scandale de Nestlé Water il y a quelques semaines, mais ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, ou moi j'avais pas d'étonnement, hein, mais que les contraintes environnementales, la pression environnementale que met l'homme sur les ressources, ben elle est la même sur l'eau du robinet. Et effectivement, moi je dis souvent que l'eau du robinet elle est pas d'assez bonne qualité que sur les sources d'eau minérale ou d'autres sources où les nappes sont polluées. Et donc ce qu'on a vu là, c'est que sans le dire à ses consommateurs, Nestlé avait microfiltré son eau Vittel pour l'embouteiller. Ben moi, mon métier, c'est de micro-filtrer, donc de dépolluer l'eau du robinet et de permettre à mes clients de l'embouteiller sur place.
Et ce qui est drôle, c'est que vous avez eu des soucis il y a quelques années avec le monde de l'eau minérale qui vous a poussé à préciser que c'était de l'eau micro-filtrée d'ailleurs.
Alors effectivement, j'ai été poursuivi. Ça s'est très bien terminé pour nous, ça date d'il y a quelques années. Mais là, j'avoue que quand j'ai lu la presse et j'ai lu sur ce... On peut dire que c'est un scandale, c'est une fraude. J'ai été très étonné de retrouver certains des acteurs qui m'avaient poursuivi il y a quelques années sur ce sujet-là.
Alors l'entreprise est rentable, mais ça a pris un petit peu de temps. Quel est votre modèle économique ?
Nous, c'est l'abonnement. On loue l'ensemble de la solution qui permet à nos clients d'embouteiller. Et on est rentable depuis 2017-2018. 2020-2021, on a levé de l'argent et donc on a creusé le trou, mais volontairement. Et là, on est de nouveau rentable depuis 2022. Donc si vous voulez, c'est juste une question d'accélération et de ce qu'on a envie de faire. Là, aujourd'hui, on sort un nouveau produit qui a été annoncé il y a quelques jours, qui est complémentaire de cette offre très premium Castali, qui s'appelle Pure. Et donc, ce nouveau produit s'appelle Pop. Et là, on vient redonner accès à l'eau aux gens dans les espaces publics, dans la rue, dans les cinémas, dans les aéroports, dans les gares, dans les centres commerciaux, dans tous les endroits finalement où une fontaine Castali très premium n'a pas sa place parce qu'elle est trop chère, parce qu'elle est fragile. Et ben là, on va mettre des points d'accès à l'eau complètement personnalisables. Donc là, on est sur Change Now et vous en avez plusieurs dans l'espace pour venir finalement aller plus loin dans la mission de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique.
On a beaucoup parlé depuis la guerre en Ukraine du prix de l'énergie. On a vu les factures gonfler, beaucoup plus d'ailleurs que notre facture d'eau. Malek, en Europe, l'eau a encore l'image d'un produit accessible et finalement peu cher, même en bouteille.
Peut-être qu'on nous a déformé en fait l'esprit à l'école, parce qu'on nous a appris que le cycle de l'eau, ça s'évapore de l'océan, ça monte dans le ciel, ça se nettoie et puis ça retombe. Donc finalement, ça donne un sentiment de confort sans fin, en se disant, quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Puis en fait, on ne nous a pas dit qu'une partie de la pluie, c'était l'évaporation des arbres. Puis si on nous explique ça, on se dit, tout d'un coup, effectivement, si je coupe ma haie, le voisin, il a moins de pluie. Donc je pense qu'aujourd'hui, personne ne connaît l'eau. Tout le monde dit qu'on a de moins en moins d'eau, ce qui est totalement faux, puisque la quantité d'eau n'a pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. Aujourd'hui, le seul enjeu, c'est la qualité. Dans le sens où 80% des eaux usées sont rejetées sans traitement. Je me répète un peu sur ce chiffre-là, hein, c'est les chiffres de l'ONU. On vit cette utopie qu'on appelle les ODD en disant en 2030, tout le monde sera relié, ce qui est techniquement impossible. Donc il faut vraiment accepter que la solution unique ou globale n'existe plus, puis qu'on ne ferait que limiter les impacts. L'Europe traite très très bien l'eau. On est à plus de 80 ou 90% de l'eau traitée. Mais en fait, tout d'un coup, on se rend compte que si la solution est locale, la réponse doit être forcément globale. Bah, parce que ma tomate, elle peut venir de l'autre bout du monde. Et que si dans ce pays-là, on ne traite pas l'eau, bah, ma tomate, c'est 90% d'eau, donc je consomme 90% d'eau. Et puis que finalement, bah, la première ressource entre pays et le premier enjeu géopolitique, c'est l'eau. Parce que quand on envoie de l'agriculture, c'est 90% de flotte. Quand on envoie des vêtements, bah, un jean, c'est 15 000 litres, etc. Donc ça devient un enjeu géopolitique. Donc tout d'un coup, même les pays les plus équipés se disent... Ben finalement, je ne peux pas juste cliner chez moi et laisser là-bas.
Et sur le prix de l'eau, alors en étant moins mondial mais plus local, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine, ça a toujours été un sujet tabou, le prix de l'eau. Tabou parce que les élus n'avaient pas envie d'annoncer des augmentations de tarifs. Et globalement, c'est 4 euros le mètre cube en France, donc 4 euros les 1000 litres. C'est-à-dire que c'est quasiment gratuit et c'est un sujet. Et c'est pour ça que les gens ne font pas attention. C'est que bah, comme finalement c'est 4 euros les 1000 litres, bah, on ne fait pas attention. On a l'impression que c'est quelque chose qui est en abondance, alors que pas du tout. Malek en parlait. Enfin, il y a peut-être le même volume d'eau, mais en tout cas, il n'y a plus les mêmes ressources ici ou là. Et donc, à titre personnel, en tant que consommateur, là, c'est plus l'entrepreneur qui parle, mais je pense que d'avoir un prix de l'eau un peu plus élevé, c'est quelque chose qui permet de, alors en France, de dépolluer mieux, et puis de surtout de faire prendre conscience aux consommateurs que l'eau a une valeur.
Tout à fait. Alors, pour compléter un peu ce que vient de dire Thibault, c'est prévu, hein, les augmentations arrivent. Donc là, c'est une certitude, c'est plus un débat. L'eau va augmenter très, très sensiblement, enfin, en tout cas, si on prend ça d'un point de vue local, en France.
C'est un effet de la sécheresse, un effet du réchauffement ?
En fait, je pense qu'il y a surtout un lien du coût pour la traiter. Parce que ce qu'on consomme aujourd'hui n'est pas ce qu'on consommait avant. Puis on a tellement surconsommé de produits chimiques pour nettoyer, etc. qu'en fait, l'eau est hyper polluée. Il y a eu pas mal d'articles de presse. Hein. Il n'y a plus aucun endroit dans le monde où il pleut de l'eau sans microplastique. On parle d'eau de pluie. Donc c'est-à-dire que même après qu'elle ait fait le cycle, elle est encore polluée. Donc finalement, ça coûte de plus en plus cher pour traiter. Bah, une fois qu'elle arrive au robinet, elle a coûté de l'argent pour nettoyer cette eau. Donc l'augmentation des prix, la sensibilisation peut aussi passer par là. Par contre, on est un des pays les plus techniquement développés dans l'eau. Et même si on est peu, si on représente peut-être 8 milliards, ça fait 1% de la planète. Moi, je pense qu'on a 40% de la responsabilité d'essayer de trouver une solution globale parce qu'on a les solutions en France.
All right, and the winner is... Hydraloop. Congratulations.
Hydraloop récompensé à plusieurs reprises au CES de Las Vegas en 2020 dans la catégorie produits durables, une solution pour ne pas gaspiller l'eau. Mais comment fonctionne Hydraloop ? Écoutez la réponse de Sabine.
Alors, le Hydraloop est un recycleur d'eau grise. Et c'est un système de recyclage d'eau innovante et élégante conçu pour les maisons et les entreprises. Il fonctionne en collectant les eaux grises provenant de sources telles que les douches, les baignoires et les machines à laver. Et une fois collecté, le système Hydraloop nettoie et désinfecte cette eau en utilisant une série de traitements et de processus de désinfection sans l'utilisation de produits chimiques ou de filtres. Et l'eau traitée est alors propre, claire, sûre et certifiée selon les normes internationales les plus élevées et peut être réutilisée, donc comme nous l'appelons, utilisée une seconde fois pour la chasse d'eau, l'irrigation des jardins, la machine à laver et le remplissage de la piscine. Donc pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une qualité d'eau de robinet. Et ce faisant, vous réduisez considérablement la demande en eau douce. Vous réduisez votre consommation d'eau jusqu'à 45%, réduisez vos émissions d'eau usée jusqu'à 45%, réduisez votre empreinte carbone, économisez de l'énergie, de l'eau et de l'argent. Les clubs sportifs et nos systèmes sont auto-nettoyants, entièrement automatiques, avec une installation facile, un coût de propriété faible et sont livrés avec une application pour smartphone. Voilà.
Les eaux grises, qu'on appelle aussi les eaux ménagères, à ne pas confondre avec les eaux noires issues des toilettes et qui ne sont donc pas reliées à Hydraloop. Vous dites que vous n'utilisez pas de produits chimiques, mais comment faites-vous pour traiter cette eau grise ?
Alors, nous utilisons 6 techniques. La manière dont nous les avons combinées constitue notre brevet. Nous utilisons la sédimentation et la flottation pour émêler la majeure partie des impuretés de l'eau de douche. Ensuite, nous utilisons la flottation par air dissous pour créer des millions de bulles d'air. Et les bulles collectant les solides en suspension, ça l'était, et montant vers l'eau sous l'effet de la force de l'eau. Et puis, nous avons du savon dans l'eau et nous voulons nous en débarrasser. Donc, nous utilisons le savon. Les bulles d'eau deviennent enfin de la mousse. Donc, au lieu de pousser de l'eau sale à travers une membrane, nous écumons la saleté. Ensuite, nous avons un bioréacteur avec des bactéries aérobies qui éliminent également les impuretés de l'eau. Et c'est un processus qui prend environ 4 heures. Et la dernière étape est la désinfection avec la lumière UVC. L'hydradoop est entièrement automatique et évacue donc automatiquement les saletés vers les égouts.
Voilà, c'est-à-dire c'est de l'eau effectivement qu'on ne va pas consommer, qui va servir, hein, vous le disiez, pour alimenter les toilettes de la maison. Autant utiliser de l'eau sale effectivement pour le faire, ou même si elle est traitée. C'est seulement pour les pavillons, les maisons individuelles, ou vous vous adressez aussi aux entreprises?
Non, nous avons créé toute une gamme de produits. Nous avons donc maintenant des produits pour les tiny houses, les petites maisons, les appartements, les habitations, les villas, mais aussi pour des opérations plus importantes telles que les hôtels, les logements étudiants, les salles de sport, les campings.
Quel est son coût et est-ce que son installation nécessite de gros travaux?
Alors, nous travaillons avec un réseau de 130 partenaires dans plus de 50 pays. Et ici en France, nous avons actuellement 5 partenaires. Et ce nombre est croissant. Nos partenaires commercialisant, vendant, installant et entretiennent nos produits. Et l'hydraloop le moins cher est l'hydraloop Consilt, qui commence autour de 2 500 € pour le prix de vente au consommateur final. L'hydraloop pour une maison familiale commence ici en France autour de 5 000 €, expédition et installation inclus. La maison doit être prête pour la recyclage. Recycle ready en anglais. Et comme nous le disons, et nous aidons à préparer la maison ou le bâtiment via nos partenaires et avec nos équipes techniques en Hollande. Pour une nouvelle construction, le coût du réseau du tuyauterie double nécessaire dans les bâtiments est relativement bon marché. Je parle d'environ 500 € pour un nouvel appartement ou 400 € pour une nouvelle maison. Lorsqu'il s'agit d'une maison existante, le coût peut être plus élevé, mais ça dépend de la situation.
We envision a day when everybody has access to clean water and sanitation, and we envision that in our lifetime.
Matt Damon, l'acteur qui est aussi le cofondateur de Water.org, il est interrogé dans un documentaire Brave Blue World et il parle des innovations et de son rêve de voir tous les habitants de la planète avoir accès à de l'eau potable et saine. Parmi ces solutions, il y a la vôtre, c'est encourageant?
Oui, c'est absolument très encourageant et aussi très important que des personnes comme Matt Damon, avec son réseau et son influence, aient choisi l'eau comme sujet pour être ambassadeur. Nous avons été filmés déjà en 2019 pour ce documentaire et il a été vendu à Netflix en 2020. Et ce qui a été une énorme surprise pour nous. Et je peux vous dire que chaque semaine, nous recevons des messages de personnes de tout le monde qui ont vu le documentaire et qui sont inspirées à recycler l'eau ou à devenir notre partenaire. Cela a donc été absolument très important pour notre visibilité dans le monde entier.
Le show du collectif Minuit 12 qui danse pour le climat lors du salon Change Now qui s'est tenu à Paris fin mars. Malek, qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement?
Beaucoup de sensibilisation. En tout cas, sur l'ONG, beaucoup de sensibilisation parce qu'on avait pas mal d'athlètes qui étaient présents dans plusieurs qualifiés au JO, qui étaient là, qui sont ambassadeurs de l'asso. Puis nos ambassadeurs, on leur demande d'être impliqués, que ce soit dans les actions sportives et dans ce type d'événement. Donc le premier, c'est de sensibiliser parce qu'on a un vrai souci là-dessus. De découvrir aussi parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaise solution ou pas de mauvaise action. Vaut mieux une mauvaise action qu'une bonne inaction. Donc finalement, le fait de voir des gens faire, c'est quand même hyper rassurant. Et puis même, je suis assez optimiste parce qu'aujourd'hui, même les politiques disent qu'il faut faire. Alors même si dans les chiffres, tout le monde est écolo, dans les faits, les chiffres sont de pire en pire, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'espère que les prochaines générations feront ce qu'on dit et pas ce qu'on fait
Et vous, Thibault, c'est un moyen de prospecter, de se financer, de recruter de nouveaux castaliens, comme vous les appelez ?
C'était surtout l'occasion d'exposer notre nouveau modèle à destination des établissements recevant du public. Donc on est partenaire de l'événement et vous avez plusieurs fontaines publiques qui sont disséminées un petit peu partout. Aujourd'hui, il manque 30 000 points d'eau dans l'espace public pour finalement cadrer avec la loi AGEC. Et on a des grosses ambitions sur ce nouveau marché. C'est l'occasion de présenter ces nouveaux produits qui sont fabriqués en France, très accessibles et qui vont aider les gens finalement à avoir un accès à l'eau, même en France.
Alors j'ai posé aussi cette question à Sabine Stuiver. ChangeNow, c'est un moment important aussi pour Hydraloop, pour accélérer notamment le développement de votre entreprise ?
Alors je ne peux pas expliquer à quel point je suis impressionnée par toutes les possibilités de réseautage ici à ChangeNow, mais aussi par le fait qu'il y a une ambiance si positive et orientée vers l'action ici. De l'action à ChangeNow. Vous savez, on a l'impression que tout le monde apporte quelque chose ici et est prêt à partager son réseau et ou son savoir. Et nous sommes tous ici ensemble avec la même mission. C'est la troisième fois à ChangeNow pour Hydraloop, mais c'est ma première participation en personne car je devais faire mes discours en ligne à cause de la situation du Covid. Et j'adore le sentiment et les réseautages.
Merci Malek, Sabine et Thibault, trois entrepreneurs, trois solutions pour la planète à retrouver sur le site ChangeNow. Je vous invite aussi à écouter notre épisode de la story de la semaine dernière avec Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.